Je vous invite à tourner dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Donc, la dernière fois, la dernière prédication, c'était donc sur le début du chapitre. Et j'avais un petit peu laissé la fin de mon message, j'avais pas eu le temps de tout faire. Donc, aujourd'hui, je vais me focaliser sur le verset 12. Actes 4, verset 12. Donc, je rappelle le contexte. Pierre a fait un miracle pour guérir miraculeusement un homme qui était impotent, donc handicapé. Et les chefs religieux, donc les sacrificateurs, les prêtres, veulent empêcher Pierre et Jean de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Enfin, donc, les tenants de la fausse religion locale veulent empêcher la prédication du vrai Dieu, de Jésus-Christ. Donc, ils sont en prison, mais ça ne les empêche pas de prêcher. Et donc là, on est devant les sacrificateurs, donc devant ce tribunal, donc ils les accusent de prêcher Jésus-Christ. Et Pierre et Jean vont prêcher Jésus-Christ. Donc, on va commencer à lire au verset 9. Donc, c'est la réponse de Pierre, rempli du Saint-Esprit. Donc, verset 8. « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme impotent, et afin de savoir par qui il a été guéri, sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, que c'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et c'est sur ce verset 12 que je voudrais me focaliser aujourd'hui. Donc, on voit que Pierre profite de l'occasion du tribunal pour prêcher l'évangile. Donc, c'est une bonne chose. Et ce verset 12 est un verset important car il nous rappelle que Jésus est la seule voie pour être réconcilié avec Dieu et pour aller au paradis, pour être en règle avec Dieu et pour aller au paradis. Il n'y a pas d'autre nom, donc il n'y a pas d'autre personne que Jésus-Christ qui peut faire la réconciliation entre l'homme et Dieu. Et c'est très important de noter que Pierre nous dit « car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom ». Donc, c'est très important de se rendre compte que c'est sous le ciel, c'est-à-dire pour le monde entier. Quel que soit l'endroit du monde où il y aurait quelqu'un qui serait sous le ciel, eh ben, il n'y a pas un autre nom que Jésus-Christ pour cette personne-là. Donc, par exemple, les gens qui sont en Amérique, en Russie, au Japon, en Australie, sous le ciel, il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le sauveur pour toutes les nations. C'est sur cette idée-là que je veux me focaliser aujourd'hui. Parce que des fois, on entend peut-être des gens qui poseront la question, peut-être que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'on peut répondre si on pense à une personne d'une tribu isolée, par exemple, souvent on va dire une personne en Afrique, dans la jungle, soi-disant isolés, donc d'une tribu soi-disant isolée, ou en Amazonie, des gens qui certes sont quand même très éloignés du reste du monde. Donc que répondre à cette personne? Est-ce que cette personne-là aussi a besoin du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvée? Sachant qu'elle est très loin, comment peut-elle en entendre parler? Et est-ce que cette personne-là a aussi besoin du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvée? La réponse est oui, de toute évidence, car il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc, pour les tribus isolées, oui, bien sûr, ils ont aussi besoin de Jésus-Christ. Il y a aussi certaines personnes qui vont dire, par exemple, que la chrétienté est une religion de blancs, c'est-à-dire de personnes typiquement européennes. Ou alors, voilà. Il y a des gens qui disent que la chrétienté, c'est une religion de personnes d'ethnie, on va dire, d'ethnie européenne. Et quelqu'un m'a effectivement dit ça, je parlais à une Chinoise, elle m'a dit que la chrétienté, c'était pour les Européens. Et ce n'était pas pour les Asiatiques. Donc, il y a des gens qui se posent cette question-là. Est-ce que la chrétienté, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les nations? La réponse est oui, de toute évidence. Donc, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le thème du message aujourd'hui, acte 4, chapitre 12, c'est de voir un petit peu sur quels éléments on peut se baser, sur quel arrière-plan on peut se baser pour affirmer que oui, Dieu est le Dieu de toute la terre, Dieu a préparé toutes les nations, Dieu a parlé à toutes les nations, Dieu s'est manifesté à toutes les nations, et donc, il peut attendre légitimement que chaque personne doive mettre sa foi en Jésus-Christ pour être sauvée. Car Dieu a parlé à toutes les nations et Dieu s'est manifesté à toutes les nations. Nous allons voir cette notion-là. Donc, toutes les nations sous le ciel. Donc, Dieu peut attendre de chaque homme, chaque tribu, même celles qui sont soi-disant isolées, chaque tribu doit croire en Jésus-Christ pour être réconciliée avec Dieu. Donc, quels sont les différents éléments qui montrent, qui prouvent et qui montrent que Dieu a parlé et s'est adressé à toutes les tribus, toutes les langues et toutes les nations? Nous allons voir cet arrière-plan commun à toute l'humanité. Donc, que la chrétienté n'est pas une religion d'Européens. Nous allons voir quel est cet arrière-plan commun à toute l'humanité. Je vais avoir trois points principaux, trois points. Premier point pour affirmer que Dieu s'est manifesté à toutes les nations, c'est que Dieu s'est manifesté par la création, c'est-à-dire par l'existence même du monde, la création. Dieu se montre, Dieu se manifeste à toute l'humanité. Je vous invite à tourner dans Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19, c'est un psaume très connu. Et en préparant le message, je me suis aperçu que j'avais déjà prêché sur ce psaume 19 il y a quelques mois, donc des fois on se répète un petit peu, mais c'est pas forcément mauvais de se répéter sur les bonnes choses. On se répète sur les bonnes choses. Donc, psaume 19, je vais commencer à lire au verset 1. Au maître chantre, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle au jour et la nuit enseigne la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entend pas. Leur voix se répand par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Là, il a dressé un pavillon pour le soleil. Et lui, il est comme un époux sortant de sa chambre nuptiale. Il se réjouit comme un héros de parcourir la carrière. Il part de l'un des bouts des cieux, et son tour s'achève à l'autre bout, et rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc au verset 7, rien ne se dérobe à la chaleur du soleil, c'est-à-dire que partout dans le monde, les gens sont exposés au soleil. Donc les gens peuvent comprendre qu'il y a cette magnifique création, il y a ce magnifique soleil qui est une création de Dieu, et cela doit leur parler et leur dire, leur faire comprendre qu'il y a un créateur tout-puissant et divin. Au verset 4, psaume 19, verset 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entend pas. Donc là, il y a une double négation, c'est-à-dire c'est une affirmation. Ça veut dire que le langage de la création parle à toutes les nations, à toutes les langues, en fait. Même qu'on parle chinois, indien, hindi, anglais ou français, peu importe, la création parle à tous les hommes. Ou même quelqu'un qui ne saurait pas parler, quelqu'un qui serait muet, bref, peu importe, vous avez compris, la création parle à tout le monde. Donc on a déjà cet élément-là. Verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc de toute évidence, quand on regarde le ciel, on doit avoir l'attitude de se dire, même si de base on n'est pas chrétien, pas forcément, même pour quelqu'un qui ne serait pas chrétien, qui ne serait pas croyant biblique, cette personne-là devrait regarder le ciel et se dire, waouh, c'est magnifique, c'est grandiose, il doit y avoir un créateur. Verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Voilà, l'étendue fait connaître, donc Dieu se fait connaître, Dieu fait connaître son œuvre. Et la bonne attitude, c'est l'attitude qui est trouvée dans le psaume 8. Donc la bonne attitude à avoir quand on regarde la création, c'est l'attitude qui est trouvée dans le psaume 8. Psaume 8, verset 4, quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, etc., etc. Donc en fait, voilà, la bonne attitude, c'est quand je regarde tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées. Voilà. C'est, en plus, c'est un chant qu'on chante. Donc la bonne attitude, c'est quand on voit la création, c'est de se dire, il y a un Dieu. Et j'ai noté quelque chose d'intéressant. Bon, j'ai pas beaucoup de mérite à l'avoir noté, puisqu'en fait, c'est ma Bible qui... cette édition de la Bible qui le propose. Mais en psaume 19, verset 5, psaume 19, verset 5, donc ce qu'on vient juste de voir, « Leur voix se répand par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. » Ce verset de psaume 19, en fait, est cité en Romains chapitre 10. Donc, je dis que j'ai pas de mérite de l'avoir trouvé, c'est pas moi qui ai trouvé ça, parce que ma Bible me le dit, en fait. Mon édition me le dit. Mais même si mon édition ne me le disait pas, quand je lis dans Romains chapitre 10, verset 18, même si mon édition ne me disait pas que c'était une citation du psaume 19, en fait, en cherchant, en lisant la Bible, j'ai pas trouvé d'autres passages de l'Ancien Testament d'où pourrait provenir cette citation. Donc c'est que ça doit provenir du psaume 19. Donc Romains 10, verset 18, « Mais je demande, ne l'ont-ils point entendu ?» Donc ne l'ont-ils point entendu, c'est-à-dire n'ont-ils point entendu la parole de Dieu ?« Ne l'ont-ils point entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » Là, c'est intéressant parce que le contexte de Romains chapitre 10, c'est l'évangélisation, c'est de faire connaître la parole de Dieu par la Bible, en présentant la Bible. Mais dans ce contexte-là, il y a une citation qui parle de la création. Donc, c'est intéressant de voir que Dieu considère que la création n'est certes pas la prédication de la parole de Dieu, de toute évidence, mais ce que j'en tire, ce que je pense, ce que je crois, c'est que Dieu considère que la création est quand même valable. C'est une chose très valable pour faire connaître Dieu. De toute évidence, croire qu'il y a un créateur ne sauve pas. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Mais Dieu considère que la création est une façon valable de se faire connaître, de faire connaître le vrai Dieu, le Créateur. Donc, la création parle à tous. Donc, je vous invite maintenant à tourner en Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Encore un passage très connu. Romains chapitre 1, commençant à lire au verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Donc là, le problème des hommes, c'est que les hommes retiennent la vérité dans l'injustice. C'est-à-dire les hommes ne veulent pas connaître la vérité. Ce n'est pas que la vérité n'est pas disponible, car la vérité est disponible. Mais les hommes ne veulent pas connaître la vérité. Donc les hommes retiennent la vérité dans l'injustice, ils refusent de croire en la vérité. Verset 19, « Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. » Virgule. Après, la phrase continue. Ce que dit le verset 20, en fait, c'est que la puissance éternelle de Dieu et sa divinité, donc, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ce que la phrase veut dire, c'est que quand on regarde les ouvrages de Dieu, donc la lune, le soleil, les étoiles, les arbres et tous les animaux et tout ça, quand on regarde les ouvrages de Dieu, c'est-à-dire la création du monde, depuis la création du monde, donc c'est-à-dire depuis le début de tous les temps, ces choses-là nous montrent les choses invisibles de Dieu. En fait, les choses visibles, la création visible, nous fait voir, quelque part, les choses invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité. Parce que on ne voit pas à l'œil nu la puissance éternelle de Dieu, c'est-à-dire son pouvoir infini, et sa divinité, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais quand on regarde les œuvres de Dieu, la création, on peut voir ces choses-là comme à l'œil nu. Ces choses-là nous sont révélées, ces choses-là nous sont manifestées. Donc quand on regarde la création, on peut se rendre compte qu'il y a un être divin et tout-puissant derrière cette création. Donc c'est pour ça que, fin du verset 20, « De sorte qu'ils sont inexcusables », donc les hommes n'ont pas d'excuse, car ils peuvent voir qu'il y a un Dieu tout-puissant. Et ils devraient se poser la question, donc qu'est-ce qu'on doit faire à propos de ce Dieu ? Ils devraient se poser la question. « De sorte qu'ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, par sa création, par ses ouvrages, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement. » Donc ça, c'est les gens qui ont inventé la théorie de l'évolution, par exemple. Ils ont inventé cette théorie parce qu'ils veulent refuser Dieu. Ils refusent Dieu. Ils ne veulent pas de la vérité. Donc, ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Exemple, théorie de l'évolution. Et leur cœur destitué d'intelligence, exemple, théorie de l'évolution, a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà. Et ça continue. Donc, ici, en Romains 1, on voit que la divinité de Dieu, sa toute-puissance éternelle, nous sont révélées par ses ouvrages, c'est-à-dire sa création. Et cette création parle à tous les êtres humains sous le ciel. Donc, tous les êtres humains sous le ciel sont préparés, ont un arrière-plan qui devrait leur faire, qui leur fait connaître Dieu, et qui fait qu'on peut s'attendre de tout un chacun que les gens mettent leur foi en Jésus-Christ, car les gens ont déjà, car Dieu a déjà été manifesté à tout le monde par sa création. Et Romains chapitre 1 verset 23, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible et les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. Donc, puisque les hommes refusent Dieu, refusent le vrai Dieu, eh ben, les hommes se sont inventés des dieux, c'est-à-dire des idoles. Les hommes ont fabriqué leur propre Dieu, puisqu'ils ont refusé le vrai Dieu qui existe et qui est réel. Donc les hommes se sont fabriqués des dieux, des faux dieux. Et ce verset 23, me permet de faire la liaison avec le deuxième point. Donc le premier point, c'était que la création parle à tout homme sous le ciel. Mon deuxième point, c'est que chaque être humain, de quelque nation qu'il soit, de quelque tribu qu'il soit, possède une conscience. Et cette conscience qui est en chaque être humain devrait l'attirer vers Dieu. En tout cas, devrait lui faire se poser des questions. Je vous invite à tourner dans Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Donc les hommes ont une conscience, mais les hommes se font des idoles stupides qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas sauver. Et pourtant les hommes se font quand même ces idoles-là. Ésaïe chapitre 44, commençant à lire au verset 9. Ésaïe 44, verset 9. Les faiseurs d'idoles ne sont tous que néants. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Donc les idoles ne servent à rien. Ça ne sert à rien si vous vous inventez un dieu qui n'existe pas. Ça ne sert à rien. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Et elles-mêmes le leur témoignent. Elles ne voient point et ne connaissent point. C'est pourquoi ils seront rendus honteux. Qui forme un dieu ? Qui font une image pour n'en avoir aucun profit ? Question rhétorique, parce que normalement, on ne devrait pas se fabriquer une statue, on ne devrait pas se fabriquer une statue qui ne sert à rien, un Dieu qui ne sauve pas, qui n'a aucun pouvoir. C'est idiot de faire ça. Donc là, Dieu nous pose une question rhétorique. Quel imbécile va faire ça ? Qui va faire ça ? Et pourtant, il y en a qui le font. Voici, tous ceux qui s'attachent à elle seront confondus. Ces ouvriers-là ne sont que des hommes. Ils se font des dieux, mais ils ne sont eux-mêmes que des hommes. qu'ils s'assemblent, qu'ils comparaissent tous, ils seront tous effrayés et confondus. Le forgeron fait une hache et il travaille avec le charbon. Il façonne le métal avec le marteau, il le travaille à force de bras. Même il a faim et il est sans force. Il ne boit point d'eau et il est épuisé. Le charpentier tend le cordeau, il marque le bois avec le crayon, il le façonne avec le ciseau et le marque avec le compas. Il en fait une figure d'homme, une belle forme humaine pour la loger dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend un rouvre et un chêne, il choisit parmi les arbres de la forêt, il plante un frêne et la pluie le fait croître. Ce bois servira à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il en fait aussi du feu pour cuire du pain. Il en fait aussi un dieu et se prosterne devant lui. Il en fait une idole et il l'adore.
Ah, j'aime beaucoup. Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. C'est
tragique comme sujet. C'est tragique parce que les gens se font des faux dieux. Mais je trouve que Dieu a un certain humour à ce niveau-là parce que il leur dit, rendez-vous compte de ce que vous faites. Vous utilisez un morceau de bois pour faire cuire votre pain, donc des choses très prosaïques, des choses de la vie courante, pour se chauffer, pour faire vos besoins quotidiens. Et de l'autre moitié, vous en faites un dieu. Rendez-vous compte à quel point c'est idiot. Ce bout de bois, il vous sert à faire votre cuisson, et puis vous en faites un dieu. C'est vraiment, c'est bête. Et en fait, le Seigneur se moque des idoles ici. Il se moque des idolâtres et des idoles. Et il essaye de leur faire prendre conscience. C'est ça que le Seigneur fait ici. C'est qu'il veut leur faire prendre conscience de l'idiotie de leur conduite. Et c'est pour ça que... Donc en fait, Dieu parle à leur conscience. Dieu parle à leur conscience ici. Rendez-vous compte de ce que vous faites. Verset 16. J'aime beaucoup, c'est un de mes passages préférés. Ésaïe 44. Verset 16. Il en brûle au feu la moitié, avec cette moitié il prépare sa viande, il la fait rôtir et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, ah, je me réchauffe, je vois la flamme. » Puis du reste de ce bois, il fait un dieu, son idole. Il l'adore, il se prosterne, il le prie et dit « Délivre-moi, car tu es mon Dieu. » C'est comme si vous disiez à votre bouteille de gaz, parce qu'aujourd'hui on se chauffe plus au bois, on fait plus cuire au bois, mais c'est comme si vous disiez à votre bouteille de gaz avec laquelle vous faites chauffer vos aliments, ah, sauve-moi, tu es mon Dieu. C'est aussi stupide que ça. Verset 18, ils ne connaissent et ne comprennent rien, car on a couvert leurs yeux pour ne pas voir et leur cœur pour ne pas comprendre. Et c'est surtout ce verset-là, le verset 19, sur lequel je veux me pencher. « Nul ne rentre en soi-même et n'a de connaissance ni d'intelligence pour dire « J'en ai brûlé la moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'en ai rôti ma viande et l'ai mangée, et avec le reste je ferai une abomination, j'adorerai un morceau de bois. » Il y a de quoi se moquer. Il y a de quoi se moquer de tous ceux qui s'inventent leur propre Dieu. Parce que c'est les bouts de bois, ok, les bouts de pierre aussi. Mais c'est aussi les gens qui pensent des choses comme moi je crois que Dieu est comme ça. Moi je crois que Dieu est comme ça. C'est aussi bête que de se faire un truc en bois, d'inventer un Dieu. Non, Dieu il est comme il est, il est décrit dans la Bible, il a des caractéristiques. Ce n'est pas à nous de l'inventer. Dieu existe. Il existe en tant que tel. Voilà. Donc Dieu se moque des idoles. J'aime beaucoup. Et au verset 19, « Nul ne rentre en soi-même et n'a de connaissance ni d'intelligence. » Donc en fait, Dieu parle à leur conscience. « Nul ne rentre en soi-même. » Rentrer en soi-même, ça veut dire se poser des questions, se dire « c'est un morceau de bois, j'en ai brûlé la moitié, je vais m'en faire un dieu avec l'autre moitié. » L'idée, c'est que en fait... Dieu exige et Dieu attend des hommes qu'ils se posent des questions. Dieu attend des hommes qu'ils se posent des questions, qu'ils rentrent en eux-mêmes, parce qu'en eux-mêmes, les hommes ont une conscience. Et la conscience humaine devrait leur faire dire, devrait leur faire réaliser que cette idole est une chose inutile et impuissante, qui ne sauve pas. Dieu parle à leur conscience, car les hommes ont une conscience. La bonne attitude à avoir, ce serait Jérémie chapitre 16. Bon, c'est juste un exemple, il y a sûrement beaucoup d'autres beaucoup d'autres passages similaires, mais un exemple de la bonne attitude que nous devrions avoir face aux idoles, donc face à toutes les dieux que nous pourrions nous inventer. Donc je pense que Dieu est comme ça, moi je pense que Dieu ferait ceci, serait comme ça. Voici la bonne attitude. Jérémie chapitre 16, versets 19 et 20. Jérémie chapitre 16, versets 19 et 20. Éternel, ma force, mon rempart et mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des bouts de la terre et elles diront : nos pères n'ont hérité que le mensonge, que des choses vaines où il n'y a point de profit. L'homme se fera-t-il lui-même des dieux qui ne sont pas des dieux ? Donc ça, c'est l'attitude correcte, c'est l'attitude raisonnable des gens qui ont fait fonctionner leur conscience et qui se sont remis en question, qui ont remis en question les choses qu'on leur avait dit, en particulier à propos des idoles ou de n'importe quelle fausse religion qu'ils auraient. Voici la bonne attitude. L'homme se fera-t-il des dieux ? L'homme se fera-t-il lui-même des dieux qui ne sont pas des dieux ? C'est une remise en question qui est possible car l'homme a une conscience. Pour continuer donc sur ce point donc de la conscience, je vous invite à tourner en Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. Donc Dieu va aussi parler à notre conscience pour que l'homme se pose la question de la raison de sa place sur la terre. Donc qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Quel est mon rôle ? Quel est le but de ma vie ? Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, versets 12 à 14. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem. Et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder avec sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible que Dieu a donnée aux hommes afin qu'ils s'y exercent. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voilà, tout est vanité et tourment d'esprit. Donc l'Ecclésiaste, le roi Salomon, pendant sa vie, il a examiné tout ce qui se fait sous le soleil, c'est-à-dire toute activité à laquelle pourraient se livrer les hommes, toute activité, on va dire, qui ne serait pas directement liée à Dieu. Salomon a examiné tout ça, les plaisirs, avoir des possessions, avoir des serviteurs, c'est-à-dire avoir une entreprise, le travail, bâtir des choses, avoir de la sagesse, étudier, toutes les choses que les êtres humains peuvent faire, on va dire, qui ne sont pas directement reliées au service de Dieu. Salomon a tout examiné. Donc, même Salomon, voilà, a tout examiné. Il a fait le tour de tout ce qu'on peut faire dans nos vies. Donc, et il dit, voilà, au verset 14, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voilà, tout est vanité et tourment d'esprit. » Et au verset 13, que je vais relire, il nous dit « Et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder avec sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. » Donc, encore une fois, hein, Salomon a examiné toutes les choses qu'on peut faire dans le monde entier, toutes les choses que tous les êtres humains peuvent faire dans le monde entier. Et il nous dit, c'est très intéressant de lire qu'il nous dit, « C'est là une occupation pénible que Dieu a donnée aux hommes afin qu'ils s'y exercent. » Donc en fait, Dieu a donné aux hommes cette occupation-là de sonder, c'est-à-dire de réfléchir à toutes les choses qui se font sous le ciel. C'est-à-dire, Dieu a donné aux hommes ce questionnement dans leur esprit à propos des choses que l'on fait dans le monde. Et en fait, c'est ça notre conscience. Notre conscience, c'est que on sonde, on recherche, on se questionne à propos des choses que l'on fait dans le monde pour savoir quel est l'objectif de ces choses-là. Pourquoi est-ce que je vais faire ces choses-là ? Pourquoi est-ce que, typiquement, prosaïquement, pourquoi est-ce que je me lève le matin ? Pourquoi est-ce que je vais au travail ? Pourquoi est-ce que je fais des efforts ? Pourquoi est-ce que je vais respecter telle ou telle règle ou aller dans tel ou tel endroit, faire tel ou tel travail ? C'est une occupation pénible parce que quand on cherche quel est le but de la vie, quand on cherche à réfléchir, quand on se pose ce genre de questions, on ne trouve pas la réponse. Parce que la réponse nous est apportée par Jésus-Christ. La réponse nous vient de Dieu. Le sens de la vie, c'est servir Dieu. Et c'est la conclusion du livre de l'Ecclésiaste. Le sens de la vie, c'est de servir Dieu. Mais si je n'ai pas Dieu, si quelqu'un ne me révèle pas le Seigneur Jésus-Christ et la vraie religion chrétienne, eh bien, ce questionnement est une occupation pénible parce qu'il n'y a pas de réponse. L'homme ne peut pas venir avec une réponse sur le sens de la vie, car il n'y a pas de sens de la vie sans Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est pénible. Mais Dieu a quand même donné cette occupation aux hommes pour qu'ils se posent la question et pour qu'ils se disent, voilà, quel est le but de ma vie? Pourquoi suis-je ici? Et normalement, une conscience qui fonctionne normalement, quand on lui révèle Jésus-Christ, eh bien, cette personne-là va se dire, oui, j'adhère, je crois, c'est ça le sens de la vie, c'est Jésus-Christ. Mais si on ne nous apporte pas Jésus-Christ, c'est une occupation pénible. Car on ne trouve pas la réponse tout seul. Néanmoins, la conscience de l'homme est là pour se poser ce questionnement. Question qui est donnée par Dieu à tout être humain. Ecclésiaste chapitre 8, Ecclésiaste chapitre 8, verset 17. Donc ici, en Ecclésiaste chapitre 8, verset 17, en fait, on voit le questionnement, mais on voit qu'on n'a pas la réponse. Parce que la réponse vient par Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 8, verset 17. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut trouver la raison de ce qui se fait sous le soleil, bien qu'il se fatigue à la chercher. Il ne la trouve pas. Bien qu'il se fatigue à la chercher, il ne la trouve pas. Et même si le sage dit qu'il la connaît, il ne la peut trouver. Donc l'homme ne peut pas trouver le sens de la vie par lui-même. Il faut que le sens de la vie, qui est servir Jésus-Christ, lui soit révélé par une source extérieure, c'est-à-dire par Dieu. Voilà. Il faut que ce sens de la vie soit révélé d'en haut. Il faut que ça vienne d'en haut. Parce que l'homme ne peut pas trouver la raison de tout ce qui se fait sous le soleil, bien qu'il se fatigue à la chercher. Parce qu'il y a ce questionnement, la conscience qui est en chaque être humain. Romains chapitre 2, versets 14 et 15, je vais juste le lire, très célèbre aussi, concernant la conscience de l'être humain. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leur pensée les accuse ou les défend. Donc là, rapidement, on voit que la conscience de l'homme, en fait, leur tient lieu de loi. Même ceux qui n'ont pas reçu la Bible, même ceux qui n'ont pas reçu les Écritures, ont une conscience, et cette conscience devrait leur faire comprendre qu'il y a le bien et le mal, et cette conscience leur tient lieu de loi. Attention, cette conscience ne leur tient pas lieu de salut, cette conscience ne les sauve pas. Cette conscience leur fait comprendre qu'ils sont coupables. Pour que les gens soient sauvés, il faut ensuite qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Il faut qu'on leur parle de Jésus-Christ. Donc il est intéressant de noter que la conscience leur sert de loi. Ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Mais la loi ne sauve pas. On a besoin de Jésus-Christ. Donc le deuxième point qui nous permet d'affirmer que chaque homme a un arrière-plan donc pour connaître Dieu, le deuxième point, c'est que chaque homme a une conscience. Et que cette conscience devrait leur faire se poser des questions. Sans pour autant leur apporter la réponse. Troisième point donc qui prouve que tous les hommes ont un arrière-plan qui devrait leur faire se poser des questions, c'est l'histoire commune à chaque être humain. L'histoire commune à chaque être humain. Donc l'histoire devrait nous faire connaître Dieu. Tout d'abord, si vous voulez aller dans Genèse chapitre 10, parce qu'en fait, toutes les tribus, tous les hommes sous le ciel ont une histoire commune. Genèse chapitre 10, versets 1 à 5. Genèse chapitre 10, versets 1 à 5. Donc là, c'est juste après le déluge, quand Noé et toute sa famille, donc avec ses fils et leurs femmes, vont sortir de l'arche. Donc Genèse chapitre 10, verset 1. Voici les descendants des fils de Noé. Sem, Cham et Japhet, auxquels naquirent des enfants après le déluge. Les fils de Japhet sont Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras, et les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma, et les fils de Javan, Elisha et Tarsis, Kittim et Dodanim. Là, c'est intéressant parce que dans ces noms, dans d'autres endroits de la Bible, on comprend que Javan, c'est la Grèce, Kittim, je crois que c'est Chypre, et bon, après, je sais pas trop, mais on peut à peu près situer vers où sont allés ces enfants. Donc, on voit à peu près les nations où elles se sont mises. Verset 5, « Par eux furent peuplées les îles des nations dans leur terre, chacun selon sa langue, selon leur famille, selon leur nation. » Donc on voit bien que la Bible est très claire, hein, après le déluge, toutes les nations du monde provenaient d'une seule famille. Toutes les nations du monde provenaient de la seule famille de Noé. Et Genèse chapitre 10, verset 32, parce que dans le chapitre 10, il y a les descendants de Japhet, les descendants de Sem et les descendants de Cham. Donc on parle de tous ces descendants-là. Et au verset 32, il nous résume un peu tout ça. « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, dans leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge. » Donc l'histoire commune à toute l'humanité, c'est que tous les êtres humains proviennent de Noé. Il n'y a pas de mystère. Tous les êtres humains, qu'ils soient de quelque couleur qu'ils soient, de quelque nation et de quelque langue qu'ils soient, proviennent tous de Noé. Donc de base, toutes les personnes ont eu accès à la même tradition, aux mêmes enseignements de la part de Noé. Et Noé leur a très certainement parlé du Dieu vivant, de tous ces événements-là. Et tous les hommes ont un arrière-plan commun, un arrière-plan historique commun. Et j'ai calculé que Noé, alors Adam aurait eu 1056 ans à la naissance de Noé. Mais Adam n'a vécu que 930 ans. Mais si Adam avait vécu plus vieux, il aurait eu 1056 ans à la naissance de Noé. Donc Noé a presque connu le premier homme. Et après, j'ai pas fait le calcul, mais je suppose que Noé a probablement connu les enfants d'Adam, quoi, les enfants ou alors ses petits-enfants. Tout ça pour dire que Noé qui a enseigné, Noé qui est l'ancêtre de toutes les familles de la terre, a eu accès aux origines, c'est-à-dire a eu accès au premier homme, Adam. Donc ils sont pas très éloignés, ils ont presque vécu ensemble. Donc il a pu aussi transmettre cet enseignement-là à ses enfants, qui à leur tour ont pu le transmettre à leurs enfants. Donc même la soi-disant tribu isolée, qui a atterri au fil de ses pérégrinations, qui a atterri en Amazonie, la soi-disant tribu isolée, eh ben, si on remonte, eh bien, elle vient de Noé. Donc elle a eu aussi accès dans sa tradition, cette tribu, à la vérité de Dieu. Puisque Noé était un homme sauvé, donc il a pu leur enseigner ces choses-là, les choses de Dieu. Donc ça, c'est l'arrière-plan commun, donc... Depuis l'origine. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que dans la Bible, plusieurs fois, Dieu se fait connaître au monde entier par la nation d'Israël, par les choses qui se passent en rapport avec la nation d'Israël. Un exemple, on peut trouver un exemple de ça en 1 Roi, chapitre 8. Donc, quand Dieu se fait connaître au monde entier par l'intermédiaire de la nation d'Israël, 1 Roi, chapitre 4, on va voir d'abord. 1 Roi, chapitre 4. Donc le contexte, c'est le règne du roi Salomon. Et Salomon est très sage, car il a prié à Dieu d'obtenir la sagesse. Donc les gens vont donc avoir envie de venir voir Salomon pour profiter de sa sagesse. 1 Roi, chapitre 4, verset 34. 1 Roi, chapitre 4, verset 34. Donc dans ce chapitre, on a... Juste avant, on a un résumé de la sagesse donc de Salomon. Et au verset 34, « Et de tous les peuples, on venait pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. » Donc à un moment donné, à ce moment-là en particulier, tous les peuples venaient en Israël. Il y a eu des gens de tous les peuples qui sont venus voir le roi Salomon. Et le roi Salomon était un homme sauvé aussi, un prophète de Dieu. Donc, il a très bien pu leur parler de Dieu de façon tout à fait claire et pour leur enseigner les voies de Dieu. Et il est bien dit de tous les peuples, on venait pour entendre la sagesse de Salomon. Au chapitre 8, 1 roi chapitre 8, verset 41. 1 roi chapitre 8, verset 41 à 43. Donc là, le contexte, c'est la prière de Salomon à l'inauguration du temple, prière magnifique. Et l'étranger lui-même, donc c'est Salomon qui parle, et l'étranger lui-même, qui ne sera pas de ton peuple d'Israël, mais qui viendra d'un pays éloigné pour l'amour de ton nom. Donc cette personne-là a entendu parler du vrai Dieu, et il est venu d'un pays éloigné. Verset 42, donc entre parenthèses, car on entendra parler de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu. Ben oui, avec tous les miracles que Dieu a fait pour son peuple, on a entendu parler de lui. Quand il viendra prier dans cette maison, toi, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et fais tout ce que cet étranger réclamera de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, qu'ils te craignent comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Donc voilà, la prière de Salomon, c'est que quand des gens viendront et qu'ils prieront à Dieu, que Dieu les exauce, afin que la renommée de Dieu soit connue dans le monde entier. Et Dieu s'est servi de la nation d'Israël à l'époque, et se sert aujourd'hui des chrétiens pour faire connaître la renommée de Dieu dans le monde entier. On a aussi Daniel, à l'époque de Daniel. Si vous voulez aller dans Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 3, donc juste après que Daniel et ses trois amis, juste après que les trois amis de Daniel aient été jetés dans la fournaise ardente, et qu'ils soient ressortis indemnes, Daniel chapitre 3, verset 29. Donc là, c'est Nebuchadnezzar qui parle, l'empereur Nebuchadnezzar qui parle. De ma part, ordre est donc donné que tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, soit mis en pièces et que sa maison soit réduite en voirie, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Donc là, on voit que, vu que le roi Nebuchadnezzar a été très impressionné par ce miracle, donc que les hommes sont sortis vivants d'une fournaise ardente, il est tellement impressionné qu'il proclame un ordre donc dans tout son royaume, dans tout son empire qui, à l'époque, englobe tout le monde connu, que tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, respecte, pour résumer, respecte le Dieu, le vrai Dieu. Dieu de ces hommes qui est le vrai Dieu. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu utilise donc, pour se faire connaître du monde entier, via l'empereur Nebuchadnezzar. Au chapitre 4, il y a quelque chose de similaire. Chapitre 4, versets 34 à 37. Pour faire plus court, on va juste lire... Au verset 37, il dit « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. » Donc là, en fait, c'est la conversion du roi Nebuchadnezzar. « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec ordre. » Il y a aussi le roi Darius qui fait quelque chose de similaire, donc qui rend gloire au Dieu des cieux de façon similaire, et qui le proclame à tout son empire. Donc on voit que là, tout le monde connu a entendu parler du Dieu des Hébreux, du Dieu d'Israël et du Dieu donc des chrétiens. Ce sont des exemples, mais Dieu a utilisé l'histoire du peuple d'Israël pour se faire connaître à tous les hommes. Donc, après ces trois points, donc la création, c'est-à-dire les choses qui existent, la création, la conscience humaine et l'histoire de l'humanité qui est commune à toute l'humanité, avec aussi l'histoire d'Israël, qui a été connue par toute l'humanité. Ces trois choses-là travaillent l'être humain et C'est pourquoi, c'est pour cette raison que chaque être humain devrait être réceptif à l'évangile de Jésus-Christ. En psaume chapitre 25, verset 12, psaume chapitre 25, verset 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel ? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Donc si un homme craint l'Éternel, si un homme a conscience de l'Éternel, de sa puissance, si un homme craint l'Éternel, il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. L'Éternel veut que les gens se convertissent à Jésus-Christ. Donc si quelqu'un craint l'Éternel, l'Éternel va leur fournir les moyens de pouvoir avoir accès à l'évangile de Jésus-Christ. Verset 13, « Son âme habitera parmi les biens, et sa postérité possédera la terre. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son alliance. » Donc si quelqu'un craint Dieu après avoir vu la création, après avoir été travaillé par sa conscience et après avoir étudié l'histoire, si quelqu'un craint l'Éternel, l'Éternel leur fera connaître son alliance. Donc, et c'est là que nous autres nous intervenons. Acte chapitre 1, verset 8, c'est là que nous intervenons, nous autres les chrétiens. Acte chapitre 1, verset 8, commandement du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez, je vous utiliserai comme, et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'homme qui craint Dieu, qui craint le Créateur, le Seigneur envoie des chrétiens vers ces gens-là, vers tout le monde, mais en particulier vers ces gens-là, pour leur révéler son alliance, c'est-à-dire la nouvelle alliance, le salut en Jésus-Christ. Et en conclusion, pour clore ce message, nous allons lire Ésaïe 56. Donc Dieu est le Dieu de toute la terre. Dieu est pour toutes les nations, Jésus-Christ est pour toutes les nations. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas de traitement différent pour les autres nations ou pour les tribus isolées. Il n'y a pas de traitement différent. Ésaïe 56, verset 3. Et que le fils de l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas : l'Éternel me sépare de son peuple. Donc, les étrangers, ne dites pas, c'est une religion d'Européens, ne dites pas, c'est une religion de Blancs, ne dites pas ça. Ne dites pas, c'est une religion d'Américains ou une religion de... peu importe. Ne dites pas ça. Verset 6, et les enfants de l'étranger, qui se seront joints à l'Éternel pour le servir, donc par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous nous joignons à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voilà, donc que les étrangers ne se croient pas exclus, au contraire. Vous êtes les bienvenus si vous voulez vous joindre au peuple de Dieu. Ouais.